Alors, déjà, minuit 45, Jean-François, des fois, j'ai tendance à oublier. Il y a bien des gens qui nous écrivent aussi pour avec des questions. Alors, pour ne pas les oublier, je vais en profiter pour, justement, aller du côté des gens qui nous écrivent sur le site du 98.5 FM. D'abord, première question, on ira au téléphone aussi après, même si il reste de la place aussi au téléphone, hein, c'est relativement tranquille. Bon, première question de Nadine. Je voudrais savoir si la Honda Insight est un aussi bon achat que la Prius non branchable parce qu'elle n'aime pas le design de la Prius non branchable. Enfin, elle l'aime moins.
Ouais, moi, je vous dirais que peut-être que la Insight va consommer peut-être un demi-litre de plus que la Prius. Mais cela dit, je suis d'accord avec Mme Nadine. La Honda Insight a une sacrée belle gueule. C'est une voiture aussi qui se conduit, que je préfère aussi la conduite de l'Insight. La Prius, là, quand vous conduisez la Prius, vous avez toujours le... Vous le savez que vous conduisez une voiture hybride. Tu sais, il y a quelque chose au niveau de la direction. C'est pas, c'est pas une voiture. Tu sais, c'est une voiture qui va bien, une voiture silencieuse, une voiture confortable, des bons sièges en passant, parmi les meilleurs sièges de l'industrie au niveau du confort. Mais vous avez toujours l'impression, vous le savez, vous conduisez une hybride. Alors que dans la Honda Insight, ben c'est vraiment là, vous avez des gènes de Honda, de la Civic, de l'Accord. C'est-à-dire que vous avez une conduite un petit peu plus sportive, un petit peu plus enjouée. Donc, puis l'aménagement intérieur, c'est une voiture plus conventionnelle que la Prius. La Prius, c'est très épuré, et puis c'est comme le design extérieur. Les stylistes, pour l'intérieur, ils ont voulu que vous sachiez que vous conduisiez une voiture futuriste, alors que l'Insight, c'est plus conventionnel, c'est plus convivial. Puis vous êtes moins dépaysé, je pense, si vous êtes habitué de conduire une voiture traditionnelle.
Parfait. Deuxième question de Charles. J'ai une question pour le, pardon, pour Monsieur Gay. J'aimerais acheter une Impala, mais j'ai entendu dire que Chevrolet va cesser d'en construire. Est-ce que les prix des Impala vont augmenter ou diminuer? Est-ce préférable de l'acheter maintenant ou attendre que Chevrolet fasse une liquidation?
Ben, c'est sûr que vous pouvez attendre que Chevrolet fasse une liquidation.
Va-tu en avoir une?
Il va-tu en avoir une? Bonne question, parce que c'est des voitures qu'on s'en, on s'entend qu'aux États-Unis, c'est une voiture que vous allez retrouver en plusieurs nombres, là, dans les cours des concessionnaires. Chez nous, c'est une voiture qui est plus rare, parce que les concessionnaires, quand ils en ont quelques-unes dans la cour, souvent, sont obligés d'en avoir, hein, parce que quand, je sais pas si tu savais ça, Jacques, mais quand tu commandes des véhicules, mettons, tu vas avoir tant de pick-up, tant de camionnettes, tant de modèles populaires, tant de Corvettes, admettons, ils vont GM à la zone vont dire d'accord, mais tu vas me prendre tant de d'Impala, tant de, ils vont essayer de passer des modèles qui se vendent moins. Alors, mais cela dit, écoutez, les annonces, GM a annoncé qu'il fermait 5 usines. Là, on ne sait pas comment les gouvernements vont réagir à tout ça pour l'instant. Hein. Puis je pense qu'on dit pas n'importe quoi en disant
ça. On peut pas faire grand-chose.
Oui, mais on a, si on regarde aussi le discours des travailleurs de l'usine à Oshawa, eux, ils ont dit qu'ils étaient pour tout faire pour que l'usine continue à fonctionner. Donc, est-ce qu'il faut lancer la serviette dans le cas de GM? Est-ce que GM va revenir sur en arrière, va faire quelques pas arrière? C'est possible. Mais je vous dirais, moi...
ça m'étonnerait.
Ben, sait-on jamais. Moi, je vous dirais, allez voir des concessionnaires, puis regardez là, s'ils font des soldes pour l'instant. C'est sûr qu'il y a des soldes pour
l'instant. Donc, on peut essayer de négocier, quoi.
Pas essayer de négocier. S'il reste certains modèles en stock, comme on dit, mais là, on est déjà rendu au mois de décembre. Fait que c'est sûr qu'ils vont tenter de liquider les modèles 2018. Et avec l'annonce que GM a faite il y a 2 semaines, ben c'est sûr que c'est pas bon pour les ventes de d'Impala. Donc, moi, je pense qu'aller magasiner, je peux pas vous répondre, je peux pas vous en dire plus que ça.
Parfait. Autre question de Sylvain. Sachant que M. Gay teste un RAM 1500, il dit que ça l'intéresse beaucoup. J'apprécierais connaître son opinion sur la suspension pneumatique optionnelle sur certains modèles, laquelle permet une élévation et un abaissement du véhicule aux 4 roues.
Ouais.
C'est comme 4 ballons gonflables et dégonflables. Qu'en pensez-vous?
Ben, c'est sûr que cette suspension-là permet d'avoir une meilleure conduite, parce que quand vous conduisez sur l'autoroute, vous conduisez sur des petites routes sinueuses, la suspension va s'abaisser, donc le centre de gravité va être moins haut, ça va améliorer la tenue de route. Vous allez dans un terrain accidenté, vous allez pouvoir rehausser la garde au sol pour éviter d'endommager la carrosserie. Le fait aussi, vous avez une suspension pneumatique, vous allez pouvoir mettre plus de poids dans la boîte en arrière, dans la benne. Par contre, c'est une option qui coûte environ 2000 $ et aussi, il y a des risques que ça casse, que ça brise.
Ah bon?
Parce que c'est pas invulnérable, ce genre de suspension-là. Donc, si ça brise, puis ça, je peux pas me prononcer sur la fiabilité, parce que ça dépend de l'usage que vous allez en faire. Et je vous dirais, ben ça va coûter des sous pour les réparations. Mais si vous avez les moyens, c'est pas ça qui va augmenter vraiment les paiements mensuels. Et parce que quand on prend tout ça ensemble, il y a une valeur à ça. Quand vous allez revendre ce véhicule-là ou le redonner en échange, le fait qu'il y a une suspension pneumatique, ça va augmenter la valeur du véhicule.
Bon, ben tant mieux. On va aller au téléphone maintenant. Nous allons parler à Monsieur Michel.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Michel.
Bonjour, j'aimerais savoir pour Ford Fusion 2011,
oui.
SEL, savoir qu'est-ce que le monsieur en pense.
Mm-hmm. Ben, vous voulez avoir le prix, monsieur? C'est quoi, vous voulez savoir?
Non, je veux savoir ce que t'en penses.
C'est une bonne voiture, là.
Ben, écoutez, une 2011, là, elle a combien de kilomètres? C'est quoi le kilométrage?
89 000 kilos.
89 000. Puis êtes-vous sûr du kilométrage? Vous pensez...
Oui.
Vous achetez ça oui. d'un particulier ou d'un...
Non, un dealer, je suis parti.
Un dealer. Ben, écoutez, combien qu'on vous demande pour ça?
11 000? Oui.
Une 2011.
Ben, t'es vraiment à droite, là. T'es vraiment pas de rouille du tout. Excellente condition, là.
C'est-tu un 4 cylindres ou avec un V6?
Ben, non, c'est un V6.
Bon, si j'en... 2011, je regarde le kilométrage. Ben, écoutez, au niveau du prix, c'est raisonnable. Mais peut-être que vous pourriez, aux alentours de ces prix-là, il y a peut-être des voitures plus intéressantes là, au niveau de la fiabilité. Moi, je vous dirais, avant d'acheter ce véhicule-là, faites-le inspecter par un atelier de mécanique indépendant qui n'a pas rapport avec le vendeur.
D'accord.
Et étant donné que vous avez le V6, mais ça, c'est un point positif, parce que c'est un moteur qui, d'après moi, a moins de problèmes que le 4 cylindres.
OK.
Mais 11 000 $ pour un 2011, moi, je trouve ça un petit peu cher. Moi, j'offrirais okay. peut-être 10 000.
Oui, OK.
Ouais.
Ben, génial, ça répond à ma question.
Parfait, monsieur. Merci d'avoir téléphoné. Une autre question par Internet de Serge. Là, il m'a écrit il y a déjà au moins 2 jours. Il voulait absolument que je te pose la question. Alors, Serge m'écrit, je demeure à la campagne. Mes chemins de campagne sont moins déblayés en hiver que ceux de Montréal, par exemple. J'ai 30 kilomètres à faire avant d'arriver à la 20 ou pour me rendre à mon travail. Ça me prend à peu près 75 minutes quand même. Alors, j'ai un Passat 2015, le plus dispendieux, soit le troisième modèle. On dirait que parfois, je me sens perdre le contrôle. Alors, je voudrais le changer. Alors, que me conseillez-vous pour avoir une bonne direction en hiver? Est-ce que l'Impreza ou un Crosstrek, c'est ça, pourrait répondre à mes attentes? Je fais 50 000 kilos par année. Et puis moi, ben une voiture, c'est pas bien compliqué. C'est pour me rendre du point A au point B.
Ben, l'Impreza, c'est un bon choix. Ça, par contre, on s'entend que c'est une voiture compacte. Votre Passat, vous, c'est une voiture de taille intermédiaire. Donc, le véhicule équivalent chez Subaru, ça serait la Legacy. La Legacy, je vous dirais, c'est un sacré bon véhicule. C'est un véhicule qui a été refait au niveau de l'aménagement intérieur en 2018. Et c'est un véhicule qui gagne à être connu, parce que des Legacy, on n'en voit pas beaucoup sur les routes. On voit davantage d'Impreza. Mais moi, je vous dirais, 75 minutes de route, vous avez beaucoup des routes enneigées. Je pense que vous allez apprécier beaucoup les Subaru en hiver.
Mm-hmm.
Ouais. Ça, je peux pas contredire monsieur. Là, si c'est son premier choix, ben je l'encourage fortement là à aller vers chez Subaru.
Ouais. Il y a également Éric qui a commenté, parce que tu as parlé du Ram. Alors, bonsoir, monsieur Fabi. Bonsoir, monsieur. J'ai moi-même un Ram et c'est un 2009. Pourtant, à 118 km/h, je fais du 12,7 litres au 100 km.
D'accord.
Donc, c'est possible.
Ben oui, c'est possible.
Tout est possible.
Moi, tantôt, je parlais de 14 litres au 100 km, mais là, c'était pas sur l'autoroute, ça, monsieur. C'était combiné. Là. Je parlais route et ville.
Parce que ça, la consommation, par exemple, ouais. On a déjà vu des fois des concessionnaires, des constructeurs nous dire « Moi, mon véhicule consomme tant, puis tout ça. » Puis on s'est aperçu que c'était pas toujours la vérité. Puis il faut voir aussi dans quelles conditions, quand même. Tu sais, l'hiver, c'est pas l'été, puis l'été, c'est pas l'hiver, puis y a des endroits, des gens qui demeurent dans des terrains plus montagneux, puis tout ça. Ouais. Alors, y a un paquet de facteurs qui font, à un moment donné... faut pas toujours se fier à ce qu'on peut lire, par exemple, quand on lit les détails de tel ou tel, au niveau de la consommation de tel ou tel modèle. Ça peut varier beaucoup. Hein.
Ça peut varier beaucoup, surtout une camionnette. Hein. Vous savez que une camionnette, on peut choisir. On a le choix du moteur. Maintenant, il y a juste une transmission automatique à 8 rapports pour l'instant. Il n'y a pas de boîte manuelle dans ce genre du côté du 1500. Par contre, quand on choisit le rapport de pont, Jacques, ça, c'est au niveau de l'essieu arrière. C'est un peu, là, moi, souvent, je donne ça... prenons une bicyclette. Une bicyclette, hein, vous avez différentes vitesses, puis en arrière, vous avez différentes... comment est-ce qu'on pourrait nommer ça, là? En arrière, là, les engrenages arrière au niveau de la roue. Mais un rapport de pont, c'est un peu ça. Un rapport de pont, vous allez choisir, admettons, un 373, un 321, un 353. Plus le rapport de pont est élevé, plus ça va vous permettre de tracter des plus grosses charges à l'arrière au niveau de la remorque. Par contre, votre moteur va révolutionner plus haut quand vous allez atteindre 100 km/h, ça va faire en sorte que ça va augmenter la consommation. Fait que le rapport de pont est bien important.
Excellent, il reste pas grand temps. Il y a Michel, un ami Facebook. Bonsoir, j'ai une Volt 2012. Si la batterie est à plat, quand il fait froid, je ne peux pas la charger. Est-ce qu'elle peut geler?
Là, il parle de sa batterie est à plat.
Oui, si la batterie est à plat, par exemple, et qu'il fait froid.
Vous pouvez la remettre. Il faut la.
Change rien.
Faut la brancher.
Il faut la brancher, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème.
Mais si elle ne branche pas, peux-tu geler? Non, il n'y a pas de.
Si quelqu'un qui entrepose une Volt, par exemple, qui s'en va en Floride l'hiver, il faut que ça soit entreposé dans un endroit tempéré. Faut pas laisser la voiture trois mois à l'extérieur, par exemple.
On aura l'occasion d'y revenir. Merci, Jean-François.
Un plaisir.
Et bonne semaine.